RCF. RCF, le béaba du christianisme.
Saint Pierre, prince des apôtres, premier évêque de Rome, un personnage incontournable des évangiles, des actes des apôtres. Mais qui est vraiment Simon Pierre? Comment comprendre le parcours de ce pêcheur de Galilée, mort martyr à Rome? Pourquoi Jésus l'a-t-il choisi pour mener son église? On en parle cette semaine dans le béaba du christianisme avec l'historien Christophe Dickès. Il vient de publier « Saint Pierre, le mystère et l'évidence ». C'est aux éditions Perrin.
Le béaba du christianisme, Pauline de Torsiac.
Christophe Dickès, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous publiez une biographie de Saint-Pierre. Ce qui vous motivait, je crois, au départ, c'était d'abord de comprendre l'origine du pouvoir pontifical. Alors, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus en détail la semaine prochaine. Mais vous commencez par retracer sa vie, l'itinéraire de sa vie. C'est d'abord la Galilée, où il est pêcheur. Dans quel milieu, dans quel univers vit celui qui va finir par suivre le Christ, Christophe Dickès?
Alors ça, c'est une chose sur laquelle en fait personne s'était véritablement penché, c'est de savoir exactement d'où il venait, quel était son milieu, qu'est-ce que un pêcheur au fond du premier siècle en Galilée. Et en fait, les évangiles nous donnent un certain nombre d'éléments qui nous permettent de d'avoir des conclusions sur ce qu'il faisait. Donc chacun sait qu'il est un pêcheur, mais est-ce que c'est un pauvre pêcheur comme l'image du 19e siècle nous l'a montré, ou bien plutôt un pêcheur de la classe moyenne? Moi, je pense que c'était un pêcheur de la classe moyenne. Pourquoi? Parce que c'est un pêcheur, si vous voulez, qui a un bateau suffisamment grand qui peut accueillir jusqu'à une quinzaine de personnes. Et pourquoi on le sait? Parce que il y avait deux types de bateaux à l'époque, des tout petits et des grands bateaux jusqu'à 15 personnes. Et dans ces grands bateaux, il utilise des filets longs. Et les filets longs, ils sont mentionnés dans l'évangile, puisque le Christ dit « aller en eau profonde ». Donc, qui dit « aller en eau profonde » dit « pêcher en eau profonde ». Et donc, notre Pierre est allé pêcher en eau profonde avec des filets longs. Et des filets longs, ça coûte plus cher que des filets courts, que des filets pour la pêche, ce qu'on appelle à l'épervier. Et donc, ce qui m'amène à penser que c'était un pêcheur qui gagnait correctement sa vie, qui avait une petite équipe, parce que évidemment des filets longs, ça ne se manie pas seul, ça se manie à plusieurs. Il avait une maison aussi qui est à Capharnaüm, une maison suffisamment grande pour pouvoir accueillir l'ensemble des apôtres et le Christ.
Une femme également.
La maison de Pierre, si vous voulez. Pardon?
Une femme également, vous le dites dans votre livre?
Une femme également, une belle-mère. Vous savez, on vivait en fratrie dans l'Orient, c'est encore le cas d'ailleurs encore beaucoup aujourd'hui. Et cette maison était suffisamment grande pour accueillir tout ce beau monde. Donc je pense, si vous voulez, que il faisait partie de la classe moyenne, mais plutôt le bas de la classe moyenne. C'est pour cette raison que il y a aussi cette contestation du pouvoir romain, c'est-à-dire que les impôts sont très importants et sont trop importants pour pouvoir vivre aisément. Et c'est pour cette raison que on a donné l'image d'un Saint-Pierre pauvre, mais je pense que Saint-Pierre n'était pas pauvre.
Alors, Saint-Pierre, déjà un peu leader, vous le dites, dans le cadre de son métier, sa famille, quels sont ses traits de caractère? Qu'est-ce qui caractérise Saint-Pierre?
Alors, Saint-Pierre, si vous voulez, c'est un pêcheur, donc la nature ne ment pas, c'est un personnage qui sait regarder les éléments, et on le voit à travers sa relation avec Jésus, il observe, il pose des questions, et effectivement, il est le porte-parole en quelque sorte des disciples, et c'est un trait essentiel en fait de l'ensemble des évangiles, où l'on voit Saint-Pierre mis à cette première place. Alors, Saint-Pierre est un personnage qui est un sanguin, on va dire, il peut s'emporter facilement, on sait qu'il dégaine son épée au jardin des Oliviers. Voilà, c'est un homme de tempérament, mais parallèlement à cela, il peut avoir peur et très souvent, finalement, il peut avoir des doutes, et très souvent, dans l'évangile, eh bien, on le voit un peu en dessous de l'événement qu'il peut vivre. Un exemple tout bête, c'est quand le Christ lui confie son église, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église aux environs de Césarée Philippe. Eh bien, Pierre, tout de suite après, refuse l'idée que Jésus puisse vivre sa passion. Il ne s'ajuste pas à Jésus, il ne s'ajuste pas à Dieu. Et juste après avoir confié son église à Pierre, il lui dit « Arrière de moi, Satan ». Et donc, il y a un paradoxe absolument incroyable dans ce moment et qu'on a du mal à comprendre. Pourquoi ? Parce qu'on fait des saints de manière générale et puis des papes aussi, des super-héros. Mais en fait, ce sont pas des super-héros, ce sont des gens comme vous et moi. Et Saint-Pierre est très humain. Et j'ai essayé de le rendre à travers cette étude très humain.
RCF, le béaba du christianisme.
Alors Christophe Dickès, comment se passe finalement sa rencontre avec le Christ? Dès la première rencontre, Jésus lui donne le nom de Pierre. Voilà, c'est pas pour rien, j'imagine.
Alors oui, effectivement, ce nom c'est Képhas en araméen. Et ça veut dire le roc, en fait. Ça signifie davantage le roc plutôt que la pierre. Et ce nom est donné à deux reprises. Alors, dans l'évangile de Jean, c'est à l'occasion de leur première rencontre. Dans l'évangile de Matthieu, c'est au moment que j'évoquais tout à l'heure, quand le Christ lui donne cette mission, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les évangiles peuvent varier de l'un à l'autre, ce n'est pas grave, c'est une chose, j'allais dire, classique, et c'est ce qui fait même la richesse de l'évangile. Disons que la chronologie n'était pas importante pour les évangélistes.
Qu'est-ce qui plaît à Jésus chez Simon Pierre? Pourquoi est-ce qu'il l'a choisi comme le premier des 12 apôtres?
Ça, il faudrait lui demander.
Oui, non mais...
ça, c'est une question...
Il y a des réponses dans votre livre quand même là-dessus.
Oui, c'est-à-dire qu'il aurait pu choisir Jean-Baptiste, il aurait pu choisir un grand prêtre, il aurait pu choisir un centurion. Rappelez-vous, à un moment, Jésus s'adresse à un centurion et dit qu'il a la plus belle foi de tout Israël. Non, il choisit un pécheur. Non seulement il choisit un pécheur, mais en plus, c'est un pécheur qui n'est pas à la hauteur. Et c'est ça qui est fascinant. C'est ça le mystère dont je parle dans mon sous-titre. En tous les cas, c'est un des mystères du sujet. C'est que le Christ choisit un homme avec des défauts. Et en quelque sorte, le Christ prend date avec toute la succession apostolique, toute la succession pétrinaire, en montrant que, au fond, il y aura des bons papes et il y aura des mauvais papes. Il y aura des grands chefs et il y aura des petits chefs. Et dans l'histoire de l'Église, vous avez autant les Borgia, Alexandre VI, que vous avez Grégoire le Grand, que vous avez Léon le Grand, etc., etc. Donc ça, c'est très important parce que si c'est ce que décrit très bien le cardinal Ratzinger avant qu'il devienne pape, le pape Benoît XVI, il montre bien que ce personnage est choisi aussi pour ses défauts, pour sa foi. Parce qu'il est le premier à confesser sa foi, mais aussi pour ses défauts.
Alors justement, on va reprendre un ou deux épisodes où finalement Saint-Pierre témoigne de sa foi au moment de la pêche miraculeuse. Il témoigne de sa foi en même temps aussi, l'épisode de la tempête, il témoigne de sa foi et en même temps il doute, il est enthousiaste, généreux, mais rattrapé par le doute, il panique. C'est ça, ça illustre aussi cette finalement à la fois le courage et la faiblesse de l'homme.
Oui, c'est-à-dire que mettons-nous à sa place, voilà, il y a un personnage qui le suit. Alors c'est dans l'évangile de Luc que c'est le plus intéressant, parce que la pêche miraculeuse, elle est racontée dans l'évangile de Luc au début, et dans le dernier chapitre de l'évangile de Saint Jean. Dans l'évangile de Luc, c'est très intéressant parce que il y a une sorte de mouvement de caméra, c'est-à-dire qu'au début, la caméra est centrée sur le personnage de Jésus, puis petit à petit, elle se déplace vers Pierre. Et Pierre, voilà, ils ont pêché toute la nuit, ils ont rien pris du tout. Le Christ leur dit « Montons et partons pêcher ». Pierre obéit, mais il n'y croit pas, si vous voulez. C'est un technicien, Pierre sait de quoi il parle. Il n'y croit pas, mais il obéit quand même.
Vous dites et que ça, c'est un intuitif, en fait, c'est aussi un intuitif.
C'est aussi un intuitif, et puis c'est surtout, là c'est un premier acte de foi, c'est-à-dire que il suit l'ordre de Jésus. Voilà. Et là, il y a cette pêche miraculeuse. Cette pêche miraculeuse, et le Christ dit bien « aller en eau profonde ». Et ça, c'est très important, parce que aller en eau profonde, c'est aller vers les périphéries du pape François, c'est aller à l'autre bout du monde. Voilà, vous avez énormément de symboles dans les évangiles qu'on peut utiliser. Le filet, les filets sont pleins, les filets sont tirés, et dans les filets, vous avez des poissons, et certains qui sont dans le filet, eh bien, sautent et repartent, en fait. Et là aussi, c'est une allégorie de l'Église, parce que ça ne veut pas dire que, même si vous êtes dans le filet de l'Église, eh bien, vous pouvez en sortir. Donc, vous avez d'abord une liberté, et puis, deuxièmement, vous pouvez très bien ne pas suivre les commandements de l'Église et vous en exclure vous-même.
Un dernier symbole, avant de refermer ce premier épisode consacré à Pierre, le symbole de la barque de Simon, là où Jésus va choisir de prêcher, qu'est-ce qu'elle symbolise, cette barque ?
Alors là aussi, c'est toujours dans l'évangile de Luc, le Christ s'approche et demande, et en fait, il y a deux barques. Le récit aurait pu dire, il monte sur une barque, point barre. Et il s'éloigne un peu, il parle à la foule, et après, il s'en va pêcher. Eh bien non, le Christ choisit de monter dans la barque de Pierre. Et ça, c'est un symbole ecclésiologique absolument incroyable, parce que on voit bien que le Christ prend sa place dans cette barque qui plus tard sera soumise à la tempête, cette barque dans laquelle Jésus va dormir, et cette barque qui est le symbole de cette Église qui doit faire face aux différentes tempêtes de son existence. Mais cette barque, c'est bien celle de Pierre, et donc c'est pas celle du voisin. C'est-à-dire que pour trouver Jésus, pour être sous le regard du Christ, eh bien, il faut être dans la barque de Pierre et il ne faut pas être en dehors.
Christophe Dikès, merci. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer d'explorer les facettes du prince des apôtres, son parcours jusqu'à Rome, son martyre. Vous nous direz tout également sur l'origine du pouvoir pontifical. Je rappelle que vous venez de publier Saint-Pierre, le mystère et l'évidence. C'est aux éditions Perrin la semaine prochaine.